Et à Dieu qu'il nous permette dans ce silence d'entendre réellement sa voix et qu'il touche nos consciences et nos cœurs. Et que réellement ce que Dieu veut pour chacune de nos vies, il puisse le réaliser cet après-midi. Ô Dieu notre Père, nous sommes devant toi et ce que nous savons d'une façon certaine, c'est que tu nous aimes tous du même grand amour et que tu nous voudrais réellement heureux, possédant ton propre bonheur. Et ce bonheur, nous savons que tu le trouves toi-même dans ton Fils bien-aimé, puisque tu l'as dit, que c'est en lui que tu mets tout ton plaisir, toutes tes affections. Ô notre Dieu, nous voudrions avoir aussi le même objet d'affection que toi pour être heureux du bonheur de Dieu. Tu peux transformer nos vies. Elles ne doivent pas rester ternes et grises, mais elles doivent s'épanouir dans la lumière, car nous ne voulons pas que la grâce que tu nous accordes soit vaine. Nous voulons qu'elle soit réelle. Et nous te bénissons parce qu'il en sera ainsi pour chacun de nous ce soir, si nous te croyons, si nous te faisons confiance. Non pas si nous luttons davantage, mais si nous nous abandonnons à toi, totalement. Sans espoir de retour, pour ta seule gloire, en Jésus. Amen. Eh bien, mes amis, je me suis tenu devant Dieu et j'avais plusieurs pensées qui me traversaient mon esprit en me disant, mais est-ce que ce matin j'ai touché réellement les points qui étaient essentiels dans ce chapitre premier de l'épître de Tite, où nous recherchons les enseignements du Dieu qui ne peut mentir. Et je pense que, si vous vous souvenez de ce chapitre, nous avons vu que dans quelques versets, nous trouvions un grand nombre de vérités doctrinales profondes. Nous avons vu d'abord que Dieu ne pouvait mentir. Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes sûr? Nous avons vu ensuite que l'Évangile, cette bonne nouvelle, avait été promis par les prophètes dans les Écritures. Vous connaissez quand même un peu l'Ancien Testament et vous savez qu'il y avait cette promesse. Ça nous a été rappelé. Donc, ça vaut la peine de lire l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament nous concerne. C'est pas simplement l'histoire des Juifs. C'est une histoire qui nous concerne et qui nous révèle comment Dieu allait se révéler aussi à nous qui faisons partie de la descendance du premier homme d'Adam. Même si nous ne sommes pas descendants d'Abraham selon la chair, nous sommes descendants d'Adam duquel Abraham lui-même aussi descendait. Et nous devenons alors des enfants d'Abraham, mais par la foi, parce que Abraham, lui, c'est l'homme qui a cru Dieu. Il a pris Dieu au mot, et c'est pourquoi il est un exemple. Abraham a pris Dieu au mot, il a cru Dieu. Et cela lui fut compté à justice. C'est pour ça qu'Abraham est le père de ceux qui croient. Il est vraiment le père des croyants, de tous ceux qui prennent Dieu au mot. Alors nous ne sommes plus simplement fils d'Adam, mais si nous croyons, nous devenons fils d'Abraham. Même si nous ne sommes pas juifs. Comprenez-vous? Puis nous avons vu aussi cette merveilleuse vérité que ceux qui sont sauvés, ce sont les élus de Dieu. Ce ne sont pas les convertis des évangélistes ou des grands prédicateurs de réunions d'évangélisation. ils peuvent faire leurs calculs, ils peuvent faire leur addition, Dieu le veuille, qu'il n'ait pas trop de soustraction à faire de l'autre côté. Mais ce ne sont pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus lui-même, il est dit que quand des foules croyaient en lui, il ne se fiait pas à eux, parce qu'il connaissait tous les hommes et qu'il savait ce qui était dans l'homme. Et qu'il ne se laissait pas aller à l'enthousiasme parce que des foules disaient « Oui, nous croyons au Seigneur ». Il voulait la réalité au fond du cœur. Dieu veut la vérité au fond de nos cœurs. Donc, ceux qui sont sauvés, ce sont ceux que Dieu a élus. C'est Dieu qui est l'auteur du salut. Et nous avons vu qu'au temps convenable, il enverrait celui qui accomplirait notre salut et qui est Jésus-Christ, qui a accompli notre salut, non pas simplement par sa prédication. Sa prédication n'aurait sauvé personne. Sa prédication était la condamnation même de tous les hommes. Parce que si même on pouvait être plus ou moins tranquille parce que l'on pensait à la loi de Moïse, on se disait « mais je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas commis adultère », quand on entendait le Christ, il disait « oui, Moïse vous a dit ça, mais moi, je vous dis ». Et tout à coup, on s'aperçoit que Jésus va beaucoup plus loin que Moïse. Si je n'ai pas tué, je n'ai pas encore aimé. Et qu'est-ce qu'il dit qu'il faut aimer? Que celui qui n'aime pas son frère, c'est un meurtrier. Alors, tout à coup, je suis saisi. Ça ne suffit pas de ne pas avoir tué pour être en règle avec Dieu. Il faut avoir aimé. Et aimer pas seulement ceux qui nous aiment, mais aimer qui? Nos ennemis, ceux qui nous font du mal. Voilà ce que m'enseigne Jésus. Alors, si Jésus n'avait fait qu'enseigner, il nous aurait tous condamnés. Il nous aurait tous culpabilisés davantage que la loi. Mais Jésus a voulu nous sauver. Et le salut de Dieu a été accompli, non pas par la vie de Jésus, mais par sa mort. Et vous devez bien saisir cela. C'est par la mort du Christ que nous sommes sauvés. Parce que nous étions des pécheurs, et le salaire du péché, c'était la mort. Si Jésus voulait nous sauver, il prenait nos péchés sur lui, mais si nos péchés étaient sur lui, qu'est-ce qu'il allait connaître? La mort. Il ne pouvait pas ne pas passer par la mort s'il voulait être notre sauveur. C'était dans le programme. Et il le savait. Mais c'était une mort affreuse. C'était une mort terrible qu'il allait supporter, la mort dans la séparation de Dieu, cette mort ignominieuse de la croix. Eh bien, tout cela en quelques versets. Dans ces quatre premiers versets de ce chapitre premier, vous aviez ces grandes vérités, les enseignements du Dieu qui ne peut mentir. Il avait promis l'espérance de la vie éternelle. Et pour que nous ayons cette vie éternelle, il a envoyé son Fils. Et nous avons considéré ce qu'était la vérité que Paul était appelé à prêcher, une vérité qui était conforme à la piété, pas n'importe quelle vérité. Et nous avons souligné que cette vérité, ce n'était pas quelque chose, c'était quelqu'un. La vérité, c'est Jésus. Puis nous avons aussi souligné que la vérité, c'est la pensée de Dieu à l'égard de toute chose. La vérité, c'est pas simplement la loi de Moïse. Non? La loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Lisons-nous dans le chapitre premier de Jean. Donc, la loi n'est pas l'expression complète de la pensée de Dieu. Si vous en êtes à la loi et que vous essayez de suivre la loi, vous savez à quoi vous en êtes? Vous êtes sous la malédiction. parce que nulle chair, dit l'Écriture, ne sera justifiée sur le principe de la loi, par les œuvres de la loi. Un jour, vous direz, ben oui, j'ai accompli la plupart des commandements. Mais vous connaissez le dernier des 10 commandements ? Qu'est-ce que c'est ? Tu ne convoiteras point. Ben, est-ce que nous ne sommes pas un peu cloués là-dessus ? La convoitise. Tu ne convoiteras point. Puis il y a tous les objets qu'on ne doit pas convoiter. Puis on sait très bien que notre cœur convoite. Tu ne convoiteras point. Donc, si nous sommes encore sous la loi, eh bien, nous sommes sous la malédiction. C'est pourquoi Paul ne voulait pas qu'il y ait des docteurs qui remettent ceux qui avaient été libérés par Jésus-Christ sous la loi du « tu dois » et « tu ne dois pas ». Parce qu'alors on est complètement culpabilisé. Et voyez-vous, c'est en Jésus que nous est révélée la vraie nature de Dieu. Et qu'est-ce qu'il est Dieu ? Amour. Il est amour. Et en Jésus, je sais ce que c'est que l'amour, mais le vrai amour. En lui, est la révélation de la nature de Dieu. Il est un père. Un père, comme nous le disions, au cœur de mère. Et c'est pas une invention que je fais là. C'est dans Ésaïe 66 qu'il est dit, comme quelqu'un que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai. Voilà ce qu'est notre Dieu. Un père au cœur de mère. Jésus donc nous révèle la vraie nature de Dieu. Mais Jésus nous révèle aussi la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, eh bien, il est lui-même, Jésus, la parole de Dieu. La parole qui a été faite chair. Et la pensée de Dieu, maintenant, nous pouvons la connaître par la puissance du Saint-Esprit qui vient mettre cette pensée en nous. Et qui rend captive notre pensée de la pensée de Dieu. Ce n'est plus moi qui cherche la confirmation de mes pensées dans l'Écriture, mais c'est l'Écriture maintenant qui m'enseigne comment je dois penser. Penser comme Dieu pense. Donc, je dois d'abord renoncer à moi, à ma manière de penser, qui me paraît très bonne. Puis voilà, tout à coup, je découvre que je suis égaré, que je suis sur un mauvais chemin, que je ne pense pas comme je dois penser, car l'Écriture dit que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Il faut admettre cela. Alors, on se courbe et on adore. On ne peut pas expliquer, mais on adore. Et on sait que Dieu a raison. Nous avons vu ce qu'était la piété, donc la relation intime d'une âme avec son Seigneur, de l'homme avec Dieu, sans intermédiaire. C'est par Jésus que nous sommes en relation avec Dieu. C'est lui notre seul médiateur, le seul médiateur entre Dieu et Dieu. Et les hommes. Nous avons vu comment au temps marqué il est venu. Nous avons vu que la prédication de cette bonne nouvelle a été confiée à Saul de Tarse devenu l'apôtre Paul. Cet homme a reçu l'ordre d'évangéliser et étant donné qu'il a reçu cet ordre, il peut dire quelque part, malheur à moi si je n'évangélise pas. Parce qu'il a reçu l'ordre de communiquer cette bonne nouvelle. Cette mission lui a été confié par Dieu le Père et par Jésus-Christ, qu'il appelle notre Sauveur parce qu'il est d'abord son Sauveur. Saul de Tarse pouvait parler de son Sauveur et il savait ce qu'il disait parce que j'espère que vous l'apprenez par cœur. Hein, il s'était vu le premier des pécheurs. Alors il pouvait parler de son Sauveur. Nous avons vu ensuite comment Paul avait confié une mission à Tite. Et justement, tout à l'heure, je me suis dit, je vais quand même vous lire quelques passages qui vous font connaître Tite. Dans l'épître aux Corinthiens, je vais vous lire brièvement ces quelques passages parce qu'ils me semblent très importants. Dans la deuxième lettre que Paul écrit à cette église de Corinthe, où il avait tant travaillé, mais qui passait par toutes sortes de difficultés, il nous dit au chapitre 2 qu'il avait donc l'intention d'aller à Corinthe, parce qu'il y avait des grands troubles. Et puis, tout à coup, il dit, ayant décidé de ne pas aller chez vous, tout à coup, il renonce à aller à Corinthe, parce qu'il s'est dit, si moi je dois y aller, je devrais leur dire de telles choses que je m'en vais les attrister beaucoup. Et le cœur de Paul, qui était le père au fond de cette église de Corinthe, était brisé. Alors il a préféré envoyer quelqu'un d'autre, un de ses collaborateurs, et il choisit un de ses enfants spirituels auquel il confie cette mission. Et cet enfant spirituel, on apprend donc que c'était Tite. Et au verset 13 du chapitre 2, il dit ceci. Quand je suis, de la deuxième aux Corinthiens, quand je suis arrivé à Troas pour y annoncer la bonne nouvelle qui concerne le Christ, je découvris que grâce au Seigneur, une occasion favorable de travailler s'y présentait à moi. Cependant, j'étais profondément inquiet parce que je n'avais pas trouvé notre frère Tite. Vous voyez qu'il y était attaché. C'était Tite qu'il avait envoyé à Corinthe. Puis il attendait des nouvelles de Tite au sujet de ses Corinthiens. C'est pourquoi je fis mes adieux aux gens de Troas et je partis pour la Macédoine. Maintenant, vous allez au chapitre 7. Donc, vous voyez que Tite avait été chargé par Paul d'aller mettre de l'ordre dans l'assemblée de Corinthe. Cet épître aux Corinthiens. Je lis depuis le verset 5. En fait, même lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, puisqu'il dit qu'il était parti pour la Macédoine, nous n'avons eu aucun repos. Nous avons rencontré des difficultés de tous côtés, des luttes avec d'autres personnes, des craintes dans nos cœurs. Mais Dieu qui donne du courage, qu'est-ce qui donne du courage à l'apôtre Paul? Dieu, hein? Dieu qui donne du courage à ceux qui sont abattus. Est-ce qu'il y a des abattus parmi vous? Dieu pourrait leur donner du courage cet après-midi. Il nous en a donné par quoi? Par l'arrivée de Tite. Vous voyez que Paul avait besoin d'être encouragé. Et non pas par un apôtre, mais par un de ses enfants spirituels. Il nous en a donné Dieu par l'arrivée de Tite. Et nous avons été encouragés non seulement par son arrivée, mais encore parce qu'il nous a dit de la façon dont vous l'avez lui-même encouragé. Il nous a raconté à quel point vous désiriez me revoir, combien vous êtes triste, comment vous êtes prêt à me défendre, parce qu'on avait attaqué Paul de toutes sortes de manières. C'est pour ça qu'il aimait mieux que ce soit un autre qui allait à sa place. C'est pourquoi maintenant, je suis encore plus joyeux. Et puis, il continue, mais là, il est question de Tite. Puis, prenez maintenant au verset 13. C'est pourquoi donc votre réaction m'a encouragé. Nous n'avons pas seulement reçu du courage, nous avons ressenti une joie bien plus grande encore en voyant combien Tite était joyeux. À cause de la façon dont vous l'avez réconforté, je me suis un peu avancé à votre sujet auprès de lui et vous ne m'avez pas déçu. Mais de même que nous vous avons toujours dit la vérité, de même l'éloge que nous avons fait de vous auprès de Tite s'est révélé exact. Paul n'avait pas dit à Tite simplement tout ce qui allait mal, mais il leur avait dit du bien des Corinthiens aussi. Alors, il était heureux de voir que ce qu'il avait dit comme bien, Tite avait éprouvé que c'était aussi vrai. Et ainsi, son affection, donc vous apprenez un peu à connaître Tite, son affection pour vous est encore plus grande lorsqu'il se rappelle comment vous étiez tout disposé à obéir. Donc vous voyez que Tite avait été pour donner des ordres, pour donner un enseignement auquel les Corinthiens devaient se soumettre. Il avait cette capacité, Tite, de pouvoir donner des ordres. Il avait une fermeté peut-être que n'avait pas Timothée. Et c'est pourquoi Paul avait choisi Tite, même s'il avait peut-être une affection plus profonde encore pour son enfant Timothée. Mais Tite, il le savait capable. Il avait vraiment une colonne vertébrale et il pouvait résister aux opposants. Ainsi, son affection pour vous est encore plus grande lorsqu'il se rappelle comment vous étiez tout disposé à obéir et comment vous l'avez accueilli avec crainte et tremblement. On a écouté la prédication de Tite, hein, comme étant vraiment la prédication du Seigneur. Et quand on est devant le Seigneur, on est vraiment dans la crainte et le tremblement. Je suis rempli de joie de pouvoir compter sur vous en tout. Puis, vous avez dans le chapitre 8, je ne m'en vais pas allonger davantage, mais quand même, je vous cite encore un verset 16 du chapitre 8, « Loué soit Dieu qui a rendu Tite aussi zélé pour vous que nous ne le sommes. Tite a accepté notre demande, donc, d'aller. Bien plus, il était si plein de zèle qu'il a décidé lui-même de se rendre chez vous. Avec lui, nous envoyons le frère, là, le nom n'est pas donné, dont toutes les églises font l'éloge à cause de son activité dans la prédication de la bonne nouvelle. En outre, il a été désigné par les églises pour nous accompagner dans le voyage au cours duquel nous accomplissons cette œuvre généreuse pour la gloire du Seigneur et pour manifester notre désir d'aider les autres. Il était question d'une collecte, de recueillir des fonds pour ceux qui étaient persécutés à Jérusalem. Et vous pouvez continuer, verset 23. En ce qui concerne Tite, qu'est-ce que Paul dit de lui? Il est mon compagnon de travail, avec moi, pour vous. Quant aux autres frères qui l'accompagnent, ils sont les envoyés des églises et agissent pour la gloire du Christ. Montrez-leur que vous les aimez réellement, afin que les églises en aient la certitude et sachent que nous avons raison d'être fiers de vous. Et je vous cite le dernier passage au chapitre 12, mais ça vous fait un peu comprendre qui est Tite, l'épître de Paul à Tite, et quelles étaient les relations de Paul avec Tite. Chapitre 12, verset 17e. Est-ce que je vous ai exploité par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai prié Tite d'aller chez vous, et j'ai envoyé avec lui le frère que vous savez, donc ce frère qui a un si beau témoignage. Allez vous dire que Tite vous a exploité? N'avons-nous pas agi, lui et moi, selon les mêmes motifs? Et en nous conduisant de la même manière. Donc, vous voyez que quand Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ », bien, ces enfants dans la foi, qu'il soit question de Timothée ou qu'il soit question de Tite, ils suivaient les enseignements de l'apôtre Paul. Voilà pour Tite. Nous avons vu la mission qui avait été confiée à Tite dans ce premier chapitre, et nous avons commencé l'étude détaillée de ces anciens que Tite devait discerner dans les communautés qui se trouvaient en Crète et qu'il devait établir pour conduire ces églises, pour être vraiment des surveillants de ces églises. Alors, je voudrais dire tout de suite ici qu'il ne faudrait pas confondre la vocation d'ancien avec les dons du Saint-Esprit ou avec les ministères. Nous disons ceci, et je voulais souligner que c'est le Saint-Esprit qui établit les responsables dans les églises, qui établit les anciens dans l'église. Le Saint-Esprit qui vous a établi ancien. Mais ce Saint-Esprit a donc dû mettre au cœur de certains hommes de prendre des responsabilités dans l'église. Ils avaient le désir de travailler pour le Seigneur. Alors ils ont aspiré à cette fonction d'ancien. Mais immédiatement, alors, un tableau leur a été donné, mais vous désirez devenir ancien, c'est une bonne chose, vous aspirez à quelque chose de bien, mais alors, voilà vos responsabilités. Vous voulez être ancien, eh bien, voilà ce qu'il faut être pour être un ancien. Donc, il y a un caractère spécifique qui caractérise donc les anciens. Et on peut résumer qu'un ancien, il doit manifester ce que Paul appelle le fruit de l'esprit, que vous trouvez dans Galates 5, verset 22. C'est l'ensemble de toutes les grâces. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la douceur, la fidélité, la patience et la maîtrise de soi. Au fond, toutes ces choses qui sont énumérées, soit dans le chapitre 3 de la première épître à Timothée, soit dans ce chapitre 1er de Tite, n'est-ce pas? Mais un ancien, donc, n'a pas nécessairement le ministère de la parole. Il doit être, oui, propre à enseigner, mais ce n'est pas tous les anciens qui enseignent. Nous l'avons souligné aussi ce matin par un autre passage que nous trouvons dans le chapitre 5 de l'épître à Timothée. Les ministères, nous les trouvons dans le chapitre 4 de l'épître aux Éphésiens. Et voyez-vous, les ministères, ça ne s'apprend pas dans les écoles de théologie. Je n'ai rien contre les écoles de théologie ou contre les écoles bibliques, mais on n'apprend pas un ministère. On reçoit un ministère. Il y a les dons de pasteur, il y a les dons de prophète, il y a les dons de quoi? Pasteur, prophète, docteur, hein? Il y a tous ces dons-là. Eh bien, il est dit que ce sont des dons qui sont faits aux hommes. Dieu a donné à son Église des pasteurs. On n'apprend pas à être pasteur. C'est un don que le Seigneur nous donne. Et nous sommes pasteurs non pas parce qu'on a fait des études nécessairement de théologie. Il y a des gens qui ont fait des études de théologie et qui ne sont pas pasteurs. Pour quelle raison? Parce que le pasteur, il doit s'occuper de quoi? Des brebis. Il doit s'occuper des brebis. Et voyez-vous, le meilleur moyen pour s'occuper des brebis, c'est d'avoir été berger. Eh bien, Moïse, qui a dû s'occuper des brebis d'Israël pendant 40 ans, il avait dû être 40 ans berger de son beau-père au pays de Madian, conduisant le troupeau de brebis dans le désert. Voyez-vous, la formation, c'est Dieu qui l'a fait. Dans les écoles bibliques, dans les écoles de théologie, vous apprenez à connaître la doctrine, mais ce n'est pas cela qui vous donne le don. Il y en a qui sont donnés à l'Église comme pasteurs, il y en a qui sont donnés à l'Église comme docteurs, il y en a qui sont donnés à l'Église comme évangélistes, n'est-ce pas? Maintenant, on vous apprend, soi-disant, ces choses. Comment est-ce que Joseph a pu être nommé conducteur de l'Égypte, le premier après le Pharaon? À quelle école est-ce qu'il a été? En prison. Hein? On lui a mis les pieds dans les sept jusqu'à ce que la parole que Dieu avait dite s'accomplit. Joseph a connu la souffrance. C'est par l'école de la vie qu'on est façonné, qu'on est formé, si on veut bien se laisser faire. Mais il en faut de la patience. Et c'est une fois que Dieu estime que Joseph est prêt par la souffrance, qu'il le fait sortir de prison et qu'il lui donne de telles responsabilités dans le pays d'Égypte. Joseph, formé par la souffrance. Daniel, de la même manière, un captif qui est formé à l'école de Dieu. Alors, comprenons bien ces choses. Donc, le caractère d'ancien, il ne faut pas le confondre simplement avec des ministères qui sont des dons que Dieu fait à son Église pour l'édification de son Église. Et puis, il ne faut pas confondre ça aussi avec les dons de l'Esprit que vous trouvez alors énumérés. Il y en a 9 qui sont énumérés dans le chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens. Le don de sagesse, le don de science, le don de la foi, qui n'est pas la foi qui sauve là, mais c'est des personnes qui reçoivent vraiment une mesure de foi tout à fait exceptionnelle et qui peuvent être des Georges Müller, alors qu'on n'est pas appelé à imiter Georges Müller si on n'a pas reçu ce don-là, n'est pas un Georges Müller où on pourrait en citer d'autres, un Don Bosco par exemple, qui a fondé tous ces orphelinats. Ce sont des hommes qui ont eu une vision, qui ont reçu de Dieu un appel et qui ont agi parce qu'ils avaient cette foi-là. Mais nous, si on voulait simplement les imiter, ce serait l'échec, ce serait la faillite. Nous ne devons pas dépasser notre mesure. Nous devons savoir ce que Dieu nous a donné. Puis, il y en a qui sont aussi prophètes, c'est-à-dire qui ont reçu ce don que quand ils parlent, ils apportent une parole qui édifie, c'est-à-dire qui construit dans les âmes quelque chose de solide, qui édifie, qui exhorte, qui réveille, qui stimule, et puis qui console, parce qu'on a toujours besoin de cela. Le prophète, c'est pas simplement celui qui annonce l'avenir, mais c'est celui qui est vraiment la bouche du Seigneur. Et quand il parle, il y a de la part de Dieu une parole pour l'auditoire qui est une parole d'édification, qui vous apporte quelque chose, qui construit votre vie. Il y a une parole d'exhortation qui vous stimule, qui vous réveille. Et puis, comme on est toujours dans les épreuves, tant qu'on est dans ce corps de chair, il y a une parole de consolation. Puis il y en a qui ont reçu le don de guérison. On n'essaye pas d'imposer les mains pour voir si ça guérit. Hein. Il y en a qui essayent comme ça. Hein. Comment est-ce que je peux savoir si j'ai le don de guérison? Alors je m'en vais me mettre sur vos têtes. Hein. J'ai prié pour vous, puis vous serez guéri de votre cancer. Il faudrait encore savoir si vous l'avez, le cancer. Hein. Parce que dès qu'on parle de cancer, tout le monde sent une douleur. C'est là, je ne sais pas. Hein. J'ai peut-être ça. Alors attention. Hein. Parce qu'après, on peut dire, oui, celui qui a ressenti une chaleur, là, je peux aussi faire ça. Hein. Vous faire ressentir une chaleur du côté gauche, du côté droit, etc. Attention, n'est-ce pas, aux manipulations spirituelles. On ne se laisse pas manipuler. Et un serviteur de Dieu n'est pas un manipulateur. Il est un instrument qui prêche la parole. Alors, je pense que vous avez bien compris qu'un ancien, évidemment, il peut être pasteur s'il en a reçu le don. On peut être ancien et être pasteur. On peut être ancien et être docteur. On peut être ancien aussi et être évangéliste. Ça n'empêche rien. Mais il ne faut pas confondre la chose. L'ancien, il doit avoir ces caractères que nous avons lus dans l'épître à Tite. Maintenant, si vous voulez que votre Église connaisse ces caractères, ben c'est lire le chapitre. C'est pas moi qui peux vous dire plus que ce qui est dit. Et c'est pas moi qui peux nommer des anciens, mais examiner dans votre communauté ceux qui portent réellement ces caractères. Et alors, vous les reconnaîtrez dans vos cœurs. après avoir vu le tableau, donc, de ce que doivent être les anciens dans leur foyer, dans leur famille, on a vu ensuite quel était ce portrait des contradicteurs, de ceux qui se disaient sauvés, qui venaient spécialement judaïsme, mais qui étaient des contredisants. Et on a vu aussi les vices de ces crétois. Vous savez, on dit, vous savez, cet homme, il a un bon fond. Vous connaissez cette expression? Les Québécois, ils ont un bon fond. C'est mieux que les Anglais. Peut-être. Mais moi, le bon fond, je ne trouve pas dans la parole. Je trouve que le fond du cœur de l'homme, il est trompeur. Que je sois Québécois, que je sois si. Désespérément malin, qui le connaît? Ce cœur, il est incurable. Donc, ne me parlez plus de votre bon fond. Il est troué. Il faut être logique, n'est-ce pas? Alors, finis ces expressions-là. Oh, mon petit, il a tellement bon fond, hein, c'est votre petit. Un jour, quand il sera grand, je voudrais bien qu'il continue d'avoir un bon fond. Attention, l'écriture doit former nos pensées et nous débarrasser de toutes nos illusions. Et alors, comme il était permis de dire, par exemple, au sujet des Corinthiens, on disait de ce temps-là, vivre à la Corinthienne. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était vivre dans la débauche. Il n'y avait pas une ville plus débauchée dans le premier siècle du christianisme que la ville de Corinthe. C'était la ville où il y avait les lupanards. On faisait tout au monde. C'était la ville de débauche, à un tel point qu'on disait dans tous les pays de ce coin-là, vivre à la Corinthienne. Et puis maintenant, eh bien, agir et parler en crétois, vous savez ce que c'était? C'était se comporter en vrai filou. Des menteurs, vivre en crétois, c'est vivre dans le mensonge et dans la paresse, dans l'oisiveté, avec toute espèce d'autres prétentions. C'était ça, vivre en crétois. Et même un de leurs poètes, nous l'avons vu, l'avait dit. Alors, vous avez eu le tableau de ce que étaient ces crétois et les faux docteurs, comment, au lieu de lutter et de dénoncer cette nature, eh bien, ils allaient au-devant des besoins de cette nature. Étant souillés à l'intérieur, ils leur disaient, ben, pour être purs, eh bien, soumettez-vous à certaines lois qui étaient tout à fait extérieures et qui ne purifiaient pas du tout le cœur. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul recommande à Tite de reprendre ces faux docteurs qui empêchaient vraiment les Crétois, les églises de Crète, d'être des églises modèles, d'être des églises saines. Et le verset 16 est très frappant. Ils font profession de connaître Dieu, donc ils avaient fait profession de se convertir, comme il y en a beaucoup dans les missions d'évangélisation qui disent s'être converti, mais nous l'avons vu, Jésus lui-même ne se fiait pas à eux. Ils ont fait profession de se convertir, mais par leurs œuvres, ils renient Dieu. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Ils sont abominables et il est dit, ils sont donc des réprouvés. Mais ils pensent qu'ils peuvent enseigner. Alors, l'ancien doit pouvoir s'opposer à ces gens-là qui n'apportaient que la division. Alors, voilà l'œuvre que Tite avait reçue de l'apôtre Paul et qu'il devait accomplir dans ses églises de Crète. Maintenant, quel était l'enseignement qu'il devait apporter aux églises de Crète? À ceux qui formaient ces églises et qui étaient des gens qui pouvaient être âgés, des plus jeunes, qui pouvaient être des hommes ou des femmes. C'est cela que vous avez lu aujourd'hui, dans le chapitre deuxième. Verset premier. Pour toi. Donc, Tite doit faire un contraste total avec ces faux docteurs. Pour toi, enseigne ce qui est conforme à la saine doctrine. Et de nouveau, je vous le souligne, qu'est-ce que c'est que la saine doctrine? C'est l'enseignement que nous a donné Jésus. C'est lui qui est la vérité. Mais cette saine doctrine, donc, c'est une personne, c'est sa personne, c'est pas simplement les paroles de Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui veut vivre en nous. Donc, il nous faut avoir constamment nos yeux fixés sur qui? Pour rester dans la saine doctrine? Sur Jésus. Parce que si vous regardez sur le monde, ou si vous regardez sur ce qui se fait dans les églises, pour imiter ce qui se fait dans les églises, même évangéliques, c'est la catastrophe. Vous allez vers la catastrophe. Ce ne sont pas aux églises que vous devez regarder. C'est à qui? À Jésus-Christ, à la tête, au chef de l'église. Quelle que soit l'église à laquelle vous apparteniez, eh bien, regardez à celui qui en est le chef. Et ce chef, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. C'est lui qui a la saine doctrine. Alors, maintenant, on a un message que l'on doit communiquer. À qui? À des vieillards. Quelqu'un a traduit des gens d'âge mûr, hein, pour qu'on ne se dise pas, j'attends d'être un vieillard pour que ça m'intéresse. Non. Mais dès qu'on arrive à l'âge mûr, on est très vite vers l'âge d'or. Je ne sais pas s'il y a un âge de platine, mais enfin, ça vient très vite. Alors, dire aux vieillards. Et vous savez, ce serait intéressant d'étudier simplement tout ce qui est dit au sujet des vieillards. Vous pourriez avoir une heureuse vieillesse. Il y a des gens qui ont eu une heureuse vieillesse et qui sont morts après avoir eu une heureuse vieillesse. Qui, par exemple? Abraham. Abraham est mort après une heureuse vieillesse. C'est pas nécessaire d'être malheureux dans la vieillesse. Et vous savez, on a l'âge de notre cœur. Et si notre cœur est joyeux, comme était le cœur de Tite, hein, eh bien, il avait quelque chose de joyeux aussi à dire aux vieillards. Il avait quelque chose de joyeux à dire aux vieillards, dit aux vieillards. Il avait un message pour les vieillards. Et un message qui venait du Seigneur et qui allait réconforter ces gens qui se voyaient évidemment vieillir, parce que notre corps vieillit. L'homme extérieur dépérit, mais l'homme intérieur se renouvelle, est-il dit, de jour en jour. Alors, ce qui doit caractériser un vieillard croyant, eh bien, c'est la sobriété. La sobriété d'abord. Qu'il soit sobre, qu'il soit honnête. On attend quand même cela d'une personne âgée, l'honnêteté. Qu'il soit modéré. Il y a plusieurs versions ici que j'ai, mais tous ces termes, au fond, se correspondent. Vigilant, sérieux, sobre. Qu'il se montre digne de l'honneur qui leur est dû. Et sache
disent aux vieillards qu'ils sachent se discipliner, puisqu'ils ont toute une expérience, eh bien, ils ne vont pas se laisser emporter par toutes les séductions. Ils sauront se discipliner. Ils seront saints, S-A-I-N-S, hein, saints, c'est-à-dire ils auront une bonne santé, ils seront en santé dans la foi. Dans la foi. Une foi qui est vraiment saine. Parce qu'il y a foi et foi. Une foi qui est morte. Est-ce qu'elle donne la santé? Non. Il y a une foi morte. La foi vivante, c'est une foi qui est saine. Et qui va produire des œuvres. Et bien, chez les vieillards, il doit aussi y avoir des œuvres saines. Qu'ils soient saints dans la foi. Qu'ils soient saints aussi dans l'amour, saint dans l'amour, vrai dans l'amour. Maintenant qu'on parle tellement d'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour? Être saint, S-A-I-N-S, dans l'amour. Un amour qui donne réellement la santé, et non pas qu'il a détruit, saint dans l'amour pour le Seigneur. Puis on s'attendrait à quoi? Saint encore en quoi? La foi, l'amour, qu'est-ce qu'on attend encore? L'espérance, hein. Et c'est pas l'espérance, là, il est dit. La patience. Mais pourquoi la patience? Parce que la patience, enfin, comprend l'espérance. Ce qu'on espère, on l'attend avec patience. Alors, le mot patience est mis pour espérance, n'est-ce pas? C'est une patience d'espérance que nous trouvons dans l'Épître aux Thessaloniciens. C'est pourquoi ici, l'apôtre peut parler de la patience. La patience, on peut penser à l'espérance. Si cela tarde, attends-la. Donc, il faut de la patience en attendant que se réalise notre espérance. Alors, il faut être saint aussi dans la patience. Voilà ce qui est dit pour les hommes, pour les vieillards. Et c'est la même chose pour les femmes âgées. C'est beau de penser que l'apôtre les distingue, les vieillards, mais aussi les femmes âgées. Elles doivent aussi, alors il est ajouté quelque chose pour les femmes âgées. Ne dites pas que Paul ne s'intéresse pas aux femmes. Il avait quelque chose à leur dire. Et il leur donnait des précisions. Et il leur donne aussi trois conseils, en plus que ce qui doit les caractériser comme les vieillards. Elles doivent être aussi sobres, honnêtes, modérées, etc., saines dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Mais il signale trois dangers pour les femmes âgées. Vous allez me dire quand même, parce que nous, les femmes âgées, nous avons encore du danger. Et on dit, à tout âge, nous avons danger. Et il souligne trois choses qui doivent les caractériser. Il faut faire attention à la toilette. Vous oublierez les femmes âgées, la toilette. Quand j'entends l'habillement, hein. Oui, oui, même les femmes âgées. Il faut qu'elles aient l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça, c'est la manière de se vêtir aussi, de s'habiller. Oh, j'ai vu des femmes âgées qui prenaient la mode comme ça, là. N'est-ce pas? Si ça leur plaît. Mais qu'est-ce qu'elles veulent enseigner à leurs petites filles avec ça? Alors, l'extérieur qui convient à la sainteté. Puis, ne pas être médisante. Comment? Mais oui, quand on atteint l'âge d'or, puis qu'on se retrouve avec d'autres femmes, quelquefois on a le danger de papoter. De parler d'une autre femme, d'une autre vieille. Pour nous, elle est vieille, celle-là, mais nous, on est vieille. Alors, on papote. Il ne faut pas être médisant. Qu'est-ce que c'est médire? C'est dire, même que, dévoiler un défaut, mais quand la personne n'est pas là. Hein. On ne parle pas devant elle. On ne dit pas la chose devant elle. C'est ça, la médisance. C'est dire peut-être quelque chose de vrai, mais la personne n'est pas là pour se défendre. Alors, faites attention. Ne pas être médisant. Ne parlons pas des autres. Et je me le dis à moi-même, ça. Puis, il y a donné aux excès du vin. Vous allez me dire quand même. Il va faire. Mais vous savez très bien que Le vin, c'est le lait des vieillards. Le lait, c'est la nourriture spirituelle, c'est la nourriture des petits-enfants. Hein. On donne aux petits-enfants le lait, n'est-ce pas? Mais le vin, ben, c'est un peu le lait des vieillards. Quand on sent vieillir, un petit coup, comme disait ma tante, boire un petit coup, c'est agréable. Hein. Boire un petit coup, c'est doux, mais il ne faut pas rouler dessous la table. Et boire un petit coup, quand même, c'est agréable. Parce qu'on sent faible, puis ça nous détend un peu. Alors, on commence un petit peu, et puis après, on s'habitue, puis on ne peut plus s'en passer de notre petit coup. Hein. C'est là qu'il faut faire attention. Alors, vous voyez comme Paul est un sage. Et il voudrait que ces femmes âgées aient toujours de l'autorité pour parler à des plus jeunes. Parce que il vise à ce qu'elles puissent enseigner. Qu'elles ne soient pas adonnées aux excès du vin. Parce que ça peut devenir tellement vite. Et il y a ces femmes qui boivent, mes amis. Oh, ils disent que n'en prennent qu'un tout petit peu. Et puis pourtant, elles doivent donner de bonnes instructions. Alors, il faut être capable de cela. Dans quel but? Eh bien, elles ont... Vous voyez qu'on peut être âgé et puis avoir encore un ministère. Mais un ministère dans un certain cadre, selon l'ordre de l'Écriture, selon l'ordre établi par Dieu. Elles doivent d'abord apprendre aux jeunes femmes. Qu'est-ce qu'elles doivent apprendre aux jeunes femmes? À aimer leur mari. Bon, on espère qu'elles ont aimé le leur, hein, de mari. Qu'elles ne sont pas heureuses d'en être débarrassées. Il est au cimetière maintenant. Non, non, non. Mais elles ont un souvenir. Et puis elles savent ce que c'était qu'aimer leur mari. Alors, maintenant, elles apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari. À aimer leur mari. Vous me direz, mon frère, c'est pas nécessaire. Une jeune femme, elle aime son mari. Peut-être au commencement. Des fois, ça ne dure pas longtemps. Alors, il faut leur souligner qu'il faut aimer son mari. Mais comment aimer son mari? Bien qu'il ait quand même la première place. Alors, il faudra qu'elle renonce à elle, oui. Mais on travaille pour son mari. Je me suis mariée, c'est pour aider mon mari, pour être une aide pour cet homme. Et vous savez que la plupart du temps, c'est les femmes qui forment les hommes. Ce qu'un homme est, ben, faut regarder la femme derrière. Pour savoir pourquoi cet homme peut être ceci ou cela. Parce qu'il a une aide qui lui fait du bien tous les jours de sa vie. Mais, souvent, chez les hommes, leur vie est un désastre. Ben, regardez aussi derrière ce qu'il y a. Il y a une femme désastreuse. Vous direz, il met toujours la faute sur les femmes. Non, non. Mais je dis que si un homme est bien, souvent, c'est à cause de sa femme. Et puis, si un homme flanche, c'est souvent aussi à cause de sa femme. Vous voyez que les femmes ont une importance extraordinaire. Si vous voulez recréer la cellule familiale, il faut que les femmes se retrouvent elles-mêmes. Parce que c'est ça la vraie indépendance. La vraie libération, c'est que la femme redevienne une femme. Une vraie femme, dans toute l'acception de ce terme, comme Dieu l'a créée, comme Dieu l'a voulu, pour que l'homme ne soit pas seul, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il a fait la femme comme une aide qui lui est absolument nécessaire. Sans la femme, l'homme n'est souvent rien, et bon à rien. Alors, donc, ces femmes âgées ont une tâche, montrer comment on peut aimer son mari. Alors, il y a des femmes qui nous disent, mais moi j'ai un mari inconverti, alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, surtout, ne lui parlez pas de Jésus. Vous allez dire, mais enfin, monsieur Racine, à quoi en arrivez-vous? Vous êtes en train de l'irriter. Pourquoi vouloir tout le temps lui parler de Jésus, d'employer tout le temps le nom de Jésus, vous avez tout le temps le nom de Jésus, et vous l'agacez suprêmement? Ou bien vous faites exprès pour vous montrer votre piété de lire votre Bible devant lui. Vous l'agacez encore. Regardez-le un peu avec amour. Puis vos lectures, faites-les pendant qu'il est loin. n'est-ce pas? Vous n'avez pas besoin de montrer un extérieur de piété, c'est pas ça la piété. La piété, c'est votre relation réelle avec Dieu. Et quand un mari verra Jésus dans sa femme, il n'a pas besoin de lui parler de Jésus. Il y a un tel changement dans une femme qui accepte Jésus. D'abord, il y a l'ordre dans la maison. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des maris qui viennent dans leur foyer et ils trouvent leur femme avec leur Bible et un désordre monstre dans la maison. La poussière partout, parce qu'on lit sa Bible, ça passe avant ma lecture biblique. Je suis maintenant converti, je m'en vais à telle chapelle, à telle église. Vous irritez le bonhomme. Alors, et puis les enfants, ben, ça va pas. Alors ça fait la division. Soyez de ces femmes qui ont une vie intérieure, que vous soyez tellement belle intérieurement, qu'extérieurement, eh bien, vous puissiez attirer votre mari. Sans parole, ça c'est 1 Pierre chapitre 3. Et on pourrait en dire long là-dessus. Et alors un jour, votre mari n'y tiendra plus. Il dira, mais disons, tu as drôlement changé, toi. Maintenant, tout est propre, tout est bien, les repas sont à l'heure, tu fais tout pour moi. Et il est complètement bousculé, bouleversé de voir le changement de sa femme, c'est presque une autre femme. Et puis, les enfants sont tenus aussi proprement, oui, à aimer aussi leurs enfants. Donner la place au mari, donner la place aux enfants. Mais rappelez aussi que les enfants ne doivent pas prendre toute la place, parce que souvent, une femme, une fois qu'elle a les enfants, il n'y a plus que les enfants qui comptent. Hein. Puis le mari, bah, c'est celui qui ramène l'argent, si la femme ne travaille pas à la maison. Mais la vie du foyer, elle est détruite. Eh bien, les femmes âgées ont un ministère. Elles apprennent aux jeunes à aimer leur mari et leurs enfants. Puis il y a pour les jeunes 7 qualités. Il faut qu'elles soient, ici il est dit, retenues. Vivre dans la réserve ou retenue, chaste, occupée des soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, il y a donc 7 qualités. Mais vous direz, mais ça c'est Saint Paul, c'est plus pour notre temps. Bien non, peut-être que c'est plus pour notre temps, mais alors vous savez dans quel temps nous sommes? Dans les temps de décadence. Et mes amis, ne comptez pas, chères sœurs, sur les monitrices d'école du dimanche pour enseigner vos enfants. Soyez de celles qui lisent la parole et qui n'imposent pas une lecture, mais qui racontent la parole aux enfants. Faites d'abord vous-même cette tâche d'enseigner vos enfants dès qu'ils sont le plus petit, dès le berceau. Ils reçoivent ces choses. On dit qu'un enfant, son caractère, il est déjà formé à l'âge de 5 ans. C'est dans ces 5 premières années que vous pouvez faire un travail extraordinaire, mère de famille. Il faut que nous revenions à ces principes. Il faut restaurer la vie familiale. Vous direz, mais c'est plus possible maintenant. Tout est possible à celui qui croit. Mais quand on dit d'abord, c'est plus possible, qu'est-ce qu'on a dans notre cœur? De l'incrédulité. De l'incrédulité. Mais si vous voulez revenir aux enseignements de la parole, à une doctrine saine, c'est ce que vous comprendrez. Maintenant, cette soumission au mari. On pourrait aller dans Éphésiens 5, j'ai un livre d'un pasteur que j'ai connu autrefois. Il a biffé Éphésiens 5, en route, il a mis faux dans la marge. Parce que il n'acceptait pas que les femmes soient soumises à leur mari. Non, non. Mais pourtant, s'il est dit femmes, soyez soumises à vos maris, il est dit mari, aimez vos femmes. Et d'un amour qui va jusqu'à donner sa vie pour sa femme. Il était demandé davantage au mari qu'à la femme. Et la soumission au mari, ben, c'est pas une soumission pénible. Une femme qui est vraiment femme, elle est contente si son mari est vraiment homme et qu'il prend certaines responsabilités. Heureux sommes-nous quand nous ne pouvons pas prendre ces responsabilités, que notre femme les prenne. Hein. Mais enfin, il y a une soumission réciproque. On est soumis réciproquement au Christ, mais toujours dans l'amour. Vous pouvez faire fi de tous ces enseignements, mais alors ne venez pas vous plaindre des désastres que vous trouvez dans la famille. Et vos enfants vous regardent, et s'ils voient vraiment cette unité du couple, eh bien, ils grandiront et ils aimeront le Seigneur. En voyant l'amour que vous avez l'un pour l'autre, ils seront amenés à aimer le Seigneur. Et voyez-vous, je connais des femmes qui ont des qualités qui étaient beaucoup plus grandes que les maris. Elles se sont converties les premières, mais elles ont voulu vraiment la conversion de leur mari. Elles ont tout fait pour cela, mais dans le silence, s'emparant de cette parole de Pierre, sans parole. Et un jour, les maris ont cédé et se sont donnés au Seigneur. Et une fois qu'ils ont été au Seigneur, elles ont tout fait, comme elles en savaient beaucoup plus qu'eux, pour leur donner la place, même dans l'instruction publique, dans l'église, dans l'assemblée. Elles n'ont pas dit, tu sais, hein, laisse-moi prier parce que moi je sais mieux prier que toi. Toi tu ne sais pas encore grand-chose. Elles ont tout fait pour que ce soit eux qui portent publiquement la parole et la prière dans l'église, selon l'ordre du Seigneur, qui a une sphère tout à fait unique pour la femme. Et si la femme n'accomplit pas ce ministère dans sa sphère, c'est un désastre pour la famille, c'est un désastre aussi pour la nation, pour la société. Mais si chacun est à sa place, il y a la bénédiction du Seigneur. Et voyez-vous, si vous voulez avoir l'exemple de ce que doit être une femme, prenez quel chapitre des Proverbes ? Le chapitre 31 des Proverbes, et vous verrez ce qu'est la femme vertueuse, la femme qui a la pleine approbation de Dieu sur ce qu'elle fait. Maintenant, il est question, verset 6, on ne peut pas s'arrêter à tout, parce que vous allez vous-même vous pénétrer de cela. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, c'est-à-dire, voyez-vous, prudents en toutes choses. Dans la jeunesse, on est bouillant, on fonce, et puis quelquefois, c'est le désastre. Hein. Savoir se maîtriser. Arriver à cette maîtrise de soi, et c'est que dans la dépendance du Saint-Esprit que nous est donnée la maîtrise de soi, en disant, mais maintenant, je livre mes membres au Seigneur. Parce que sans ça, si je garde l'emploi de mes membres, qu'est-ce que je ferai avec mes membres? Je pécherai. C'est avec nos membres qu'on pêche. Hein. Alors, livrons nos corps, non seulement nos âmes, parce que dans les réunions d'évangélisation, on donne son âme au Seigneur. Mais notre âme, elle est dans quoi? Elle est dans un corps. Les gens ne voient pas notre âme. Vous pouvez dire que vous avez donné votre âme au Seigneur, mais ils voient votre corps. Et alors vos agissements, eh bien, être modéré, mais c'est justement difficile aujourd'hui d'être modéré, même dans nos milieux évangéliques, on veut une musique rock. Vous allez dire, hein, il a subi l'influence du père Rogimbal. Oui, on se voit et on se parle. Et on souffre aussi ensemble. Mais mes amis, j'ai pas besoin du père Rogimbal pour savoir qu'il y a une certaine musique qui n'est pas saine, qui est vraiment la musique des fils de Caïn. Et vous savez que c'est Caïn qui est le père de notre civilisation. Et si vous voulez cette musique qui vous rendra sourd avant le temps, avant d'être des vieillards qui perdent l'ouïe, eh bien continuez. Mais sachez que ce n'est pas la musique du Seigneur. Et vous pouvez me mettre toutes les paroles de Jésus sur cette musique infernale, quand on entend cette musique, eh bien, on se croit dans une discothèque. Et c'est la confusion la plus totale. Vous allez évidemment ne pas avoir l'oreille de tous les jeunes, ça c'est vrai, mais que voulez-vous suivre? Est-ce que vous voulez être, vous, populaire? Parce que on vous aime bien et vous voulez conserver cette affection? Ou bien est-ce que vous voulez vraiment aimer ces jeunes qui t'ont crucifié? Parce que c'est toujours à cela que ça nous amène. La fidélité dans le milieu où vous serez pour enseigner vous amènera toujours à la crucifixion et à la souffrance. Si vous vous laissez imprégner par la parole de Dieu, lisez dans le chapitre 5 du livre d'Amos, au verset 23e. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de vos luttes. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. On a dit que le bien ne faisait pas de bruit et le bruit ne faisait pas de bien. Le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Il y a la modération en tout. Et quand on sait d'où vient le roc, et comment on se déhanche en chantant tout cela, et ceux qui se sont déhanchés et qui étaient des champions du sexe, comment voulez-vous? Vous n'avez pas de sexe, vous. Les chrétiens évangéliques, ils n'ont pas de sexe. Les jeunes évangéliques, ils n'ont pas de sexe. Alors, apprenons-leur la musique roc évangélique. Vous savez où vous allez? Oh, mais vous serez une église dans le vent. Une église dans le vent. Je sais que ça vous amènera des conflits dans la maison, dans les foyers, dans la famille. Mais c'est l'heure de reprendre les rênes. C'est l'heure de savoir faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Entre ce qui est pur et ce qui est impur. Maintenant, si vous voulez autre chose, prenez autre chose. Mais vous en aurez des conséquences. Alors, ne venez plus vous plaindre. Et tous ces jeunes qui, à 20 ans, pensent au suicide, vous croyez que c'est normal? Ils n'ont pas encore vécu, ils n'ont pas 20 printemps, et ils pensent déjà à se détruire. Il n'y a que le trou. Être là, dans le trou. Et je veux qu'on chante, et je veux qu'on danse quand on me jettera dans le trou. Oui. Les chanteurs ont écrit ça. Et c'est ça, votre espérance? Après la mort, suit le jugement. C'est l'heure de réagir. Et de laisser Dieu nous inspirer. Mais vous allez souffrir. Parce que c'est toujours un renoncement. Peut-être le renoncement à ma réputation, à l'amour que l'on a pour moi. Jésus a aimé jusqu'à la mort. Il a voulu le salut des âmes. Alors exhorte les jeunes gens à être modérés. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres en donnant un enseignement pur, digne. Un enseignement pur, qu'est-ce que c'est? C'est un enseignement qui n'est pas mélangé. Hein? C'est ça la pureté. C'est ce qui est sans mélange. Un enseignement pur, un enseignement digne, pas quelque chose qui excite la chair, qui met en avant la chair, qui glorifie la chair. La chair, sa place, c'est à la croix. C'est pas l'exaltation de la chair. La chair, elle doit être crucifiée. C'est une dimension que nous allons souligner ce soir. Donc, Tite, en enseignant, il devait se montrer, verset 7, lui-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur et digne. Il y a d'autres choses à montrer aux jeunes. Ils peuvent faire autre chose que cette musique-là. Orientez-les vers d'autres choses. Il y a des multitudes de gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont orientés mieux que nos chrétiens évangéliques d'aujourd'hui. Parce que maintenant, on veut s'amuser. Et partout, on emploie le mot festival, festival, festival. Il faut que ça soit la grande fête. Et c'est ça, les chrétiens. Festival. Quand vous savez qu'il y a une multitude de gens qui sont dans la souffrance et que nous devrions être à genoux dans la prière. C'est pas d'être triste, c'est pas ça, mais de traverser ces épreuves et de savoir que nous avons part aux souffrances du Christ. Car il faut que cette parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs, alors maintenant il y a les serviteurs, à être soumis à leur maître, de nouveau la soumission des ouvriers à leur patron, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant. Voilà encore des ouvriers qui veulent amener leur patron au Seigneur. Mais c'est pas en leur parlant toujours de la parole, mais c'est en vivant cette parole. C'est en montrant qu'ils ne sont pas des ouvriers comme les autres, mais qu'ils font les choses parce qu'ils ont des principes qui viennent d'en haut, et finalement c'est le patron qui va demander à son ouvrier, à son employé, la raison de l'espérance qui est en lui. Et alors vous parlerez de Jésus, mais pas avant. Priez avant, dites au Seigneur, donne-moi une occasion de pouvoir parler de toi comme je dois en parler, mais de pouvoir parler de toi avec autorité, que quand il me le demandera, que je puisse lui dire que c'est toi qui m'as changé. C'est cela le témoignage. C'est pas assassiner les gens parce que vous les empêchez de croire, parce que vous voulez faire vous-même l'œuvre. Il faut que le Seigneur vous mette de côté, et c'est quand vous acceptez d'être mis de côté que l'œuvre commence, et que vous voyez l'œuvre qui commence. Et puis, donc il y a une fidélité, ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. La doctrine de Dieu notre Sauveur, c'est nous qui avons la responsabilité de la faire honorer dans le monde. Si vous avez un sauveur, montrez que ce sauveur vous a transformé. Vous êtes toujours la même créature, mais tout est recréé en vous. Vous êtes une nouvelle création. Il y a quelque chose de nouveau. Et c'est là un témoignage. Et c'est le monde qui commence à rendre témoignage de vous. Alors, voilà ce que Tite avait à enseigner aux uns et aux autres, et toujours la soumission. Puis, les versets 11 à 15, c'est une petite merveille. Et j'espère que vous la méditerez longuement. Car la grâce de Dieu, et ici la grâce de Dieu, elle est personnifiée. Qui est la grâce de Dieu? C'est Jésus. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. Alors, vous avez maintenant la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, comme on a dit, la vérité, c'est Jésus. La grâce de Dieu, c'est Jésus. La grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'elle donne? Le salut. Voilà ce qu'elle apporte. Elle apporte le salut à qui? À tous les hommes. Donc vous pouvez espérer le salut de tous les hommes. La grâce de Dieu. Si vous regardez à Jésus, vous pouvez espérer pour tous les hommes. Je regarde à Jésus pour mon mari. Je regarde à Jésus pour mes enfants. Je regarde à Jésus pour ma femme. Je regarde à Jésus. C'est à travers Jésus que je regarde. C'est lui qui me donne confiance. Et quand je regarde Jésus, je vois déjà la personne pour qui je prie d'une autre manière. Parce que en Jésus, je vois combien lui l'a aimé, combien lui l'aime. Le Seigneur l'aime plus que vous l'aimez vous-même. Il aime cette créature pour laquelle vous priez plus que vous. Alors regardez cette âme à travers Jésus. et vous serez encouragés. La grâce de Dieu est la porte de salut à tous les hommes, ça vous n'en douterez pas. Elle a été manifestée. Quand est-ce qu'elle a été manifestée? Quand la parole est devenue chair. Hein? La parole devint chair, c'est le prologue de Saint Jean. La parole devint chair et nous vîmes sa gloire, une gloire semblable à celle d'un Fils unique venu de la part du Père. Et cette grâce, donc, qui est une personne, on voit ce qu'elle est, une personne, le Seigneur, on voit ce qu'elle apporte, elle apporte le salut à tous les hommes, elle a été manifestée, et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous enseigne. On n'est plus enseigné par la loi de Moïse, tu dois, tu ne dois pas, mais on est enseigné par la grâce. Et être enseigné par la grâce, c'est être enseigné par qui? Par Jésus, qui nous dit que son joug est doux et que son fardeau est léger. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette grâce? Eh bien, elle nous enseigne à renoncer. Oh, vous dites, renoncer, c'est le sacrifice. Non, mais que vous avez trouvé quelque chose de meilleur, est-ce que c'est pénible de renoncer? Si vous avez un meuble neuf, est-ce que c'est pénible de renoncer à votre vieille armoire? Si c'est du neuf et si ça convient mieux, c'est pas pénible l'échange. Eh bien, le Seigneur vous apporte un mobilier neuf. Alors vous pouvez renoncer à vos vieilleries auxquelles nous sommes encore tellement attachés. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent. Comment? Eh bien, il y a trois relations. À vivre pour nous-mêmes dans la sagesse, ou dans la sobriété. Pour moi-même, la grâce me montre que je dois être sobre en toutes choses. Sobriété, ou sagesse, équilibre, donc prudence. Comme le Seigneur l'a dit, et puis comme il a vécu, elle nous enseigne à vivre dans la sagesse. Puis, vis-à-vis des autres, pour nous-mêmes la sagesse, vis-à-vis des autres, dans la justice. Se proposer toujours ce qui est juste pour les autres. Plutôt subir les injustices que d'en faire subir. Préférer subir les injustices. C'est dans le programme du chrétien. Le chrétien, il se confie dans le Seigneur qui fera justice. Mais il ne vit pas dans l'injustice. Et puis alors, dans nos relations avec Dieu, nous devons vivre dans la piété. Qu'est-ce que c'est vivre dans la piété? C'est avoir une intimité avec Dieu. C'est en toute chose faire appel à Dieu et lui rendre grâce. C'est ce que Saint Paul dit quand il dit prier sans cesse. Comme je le dis quelquefois, c'est pas marmotter des prières, la prier sans cesse, hein, mais c'est avoir une vie ouverte à Dieu pour toutes choses, dans tous les domaines, parce que si vous priez seulement pour les grandes choses, vous priez pas souvent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de grandes choses dans notre vie. Mais notre vie, elle est faite d'une multitude de petites choses. Et c'est ces petites choses qui vous empoisonnent dans le quotidien. Et c'est ces petites choses que nous devons remettre au Seigneur. Nous allons au Seigneur pour toutes choses. Et nous nous demandons, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cela? Même pour aller chez le coiffeur, par exemple. Vous pouvez aller chez le coiffeur, mais demandez-vous, est-ce que je fais bien là? Est-ce que c'est ce que tu veux, Seigneur? Puis dans tous les autres domaines, dans le domaine de la toilette aussi, puisqu'on en a parlé, est-ce que c'est ça qui te plaît, Seigneur? Est-ce que avec cela, je suis digne vis-à-vis de mon mari? Est-ce que je suis digne vis-à-vis de mes enfants? Vous savez, une femme qui est vraiment convertie, eh bien, elle fait un effort aussi pour plaire à son mari, même si son mari n'est pas converti. C'est pas parce qu'elle est devenue croyante qu'elle se relâche. C'est tout le contraire. Parce qu'elle sait maintenant qu'elle dépend de Dieu, et Dieu fait des choses belles, fait des choses bonnes. C'est tellement beau la nature quand on regarde. Hein. Eh bien, soyez un peu en harmonie avec ce que le Créateur a fait. C'est pas nécessaire qu'une chrétienne soit mal fagotée, comme on dit de l'autre côté de l'océan. Mais, qu'est-ce que c'est la règle? Pudeur et modestie. Hein. Pudeur, c'est assez. modestie, c'est pas trop. Il y a un équilibre. C'est Thomas Aquinas, c'est Paul qui a dit ça. Chapitre 2 de la première épître à Timothée. Il y a tout ce qui est nécessaire pour que la parole ne soit pas blasphémée. Vivre dans la sagesse pour moi-même. Est-ce que c'est sage que je fasse ça ou que je m'achète cela? Est-ce que ça contribue à me rapprocher du Seigneur? Voyez-vous, on arrive à se dire tout ce qui m'éloigne du Seigneur, ce n'est pas utile. Ce n'est pas des choses nécessairement mauvaises, mais ça ne fait pas progresser vers le Seigneur. J'en ai pas besoin. Et là, on a d'autres possibilités. On ne cède plus à nos envies, mais on vient avec ses envies devant le Seigneur. Puis on lui dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Toi, j'ai envie de ça. Et si ça correspond au désir du Seigneur, bien, on l'a. Mais si ça ne correspond pas au désir du Seigneur, il nous l'enlève, cette envie. Comprenez-vous? Mais on passe par le Seigneur. Il est notre médiateur entre Dieu et les hommes. Et nous avons affaire ainsi avec Dieu en toutes choses. Et qu'est-ce que nous attendons en vivant dans la piété, en vivant dans une relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend une nouvelle fantastique. C'est quoi? Celui qui est venu une première fois, après 4000 ans de promesses réitérées par Dieu, il est dit qu'il reviendra une seconde fois pour apporter le salut à ceux qui l'attendent. Parce que nous ne sommes sauvés qu'en espérance. Nous sommes encore dans des corps de souffrance, dans des corps d'infirmité. Mais nous apprenons maintenant, quand nous sommes en relation avec Dieu, que le retour du Seigneur est proche, que celui qui est venu une première fois reviendra une seconde fois. Nous vivons entre ce qu'on appelle deux épiphanies, deux manifestations. Il est venu une première fois pour régler la question du péché. Et ce que nous attendons, ce n'est pas une catastrophe, c'est la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur, elle est appelée une bienheureuse espérance. Est-ce que vous connaissez quelque chose de cette bienheureuse espérance? Ce n'est pas n'importe quelle espérance, mais une bienheureuse espérance. Et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Parce que dans ce monde, qu'est-ce qu'on a vu de Jésus jusqu'à maintenant? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que le monde a vu de Jésus? Le monde de son temps, il a vu un Jésus crucifié. Qu'est-ce qui a vu Jésus ressuscité? C'est le monde? Non. Seulement les apôtres. Il s'est montré à ses apôtres. Le monde n'a pas vu Jésus ressuscité. Pour vraiment croire à la résurrection, il faut la foi. Croire le témoignage que les apôtres ont rendu au ressuscité. Mais le monde n'a vu qu'un cadavre, qu'on a enseveli, ce corps qui a été donné par Pilate à Joseph d'Arimathée et que Joseph a enseveli dans ce tombeau. Donc le Christ glorieux n'a pas été vu par le monde. Il a été vu par certains hommes au travers des siècles, il a été vu par certaines femmes qui ont vu le Seigneur dans la gloire. On pense à Étienne, par exemple, qui en a rendu témoignage. On pense à Saul de Tarse, qui dit « J'ai vu le Seigneur ». Et il a vu le Seigneur dans la gloire. Et pour lui, il n'y a plus que Jésus qui compte. Il a fait la perte de toutes choses. Il veut être trouvé en lui. Il veut travailler pour lui jusqu'à ce qu'il vienne. Et il l'attend au cours de sa vie. Et alors, évidemment, là, on pourrait élaborer et vous donner d'autres passages qui montrent que ce retour du Seigneur, cette venue du Seigneur, doit se passer en deux temps. D'abord, cette bienheureuse espérance qui est l'enlèvement subi des croyants auprès du Seigneur dans la gloire. Ensuite, son retour avec lui pour instaurer son règne dans ce monde. Parce que c'est lui qui doit régner, qui doit avoir le règne universel dans le monde. C'est le Seigneur qui reviendra et qui manifestera toute sa gloire. La bienheureuse espérance, vous la trouvez décrite dans le chapitre 4. De quelle épître? L'épître aux Thessaloniciens, la première épître, hein, verset 13 au verset 18. Nous apprenons qu'il y a un mystère qui va bientôt s'accomplir et que les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis les vivants, nous qui sommes vivants, ceux qui seront vivants, une génération qui se trouvera vivante à sa venue, sera transmuée et sans passer par la mort, par la puissance que le Seigneur a de s'assujettir toutes choses, eh bien, nous serons enlevés avec les morts ressuscités pour nous en aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis, on entre dans la maison du Père, et ensuite, quand tous reçoivent leur couronne, quand tous reçoivent leur fonction dans le royaume, selon la fidélité qu'ils auront eue depuis leur conversion sur la terre, nous reviendrons avec le Seigneur. Car quand le Seigneur reviendra en gloire, le Seigneur n'est plus seul. Il n'y a plus seulement la tête, il y a son corps. Et nous faisons partie de son corps. De sorte qu'au retour glorieux du Seigneur, ce que le monde verra, quand le monde verra le Seigneur venir, il verra la tête et le corps. Il verra le Seigneur dans tous les siens, dans tous ceux qui auront cru. Il est dit qu'il sera, le monde admirera le Seigneur en tous ceux qui auront cru. Tête et corps, dans une unité parfaite. Et c'est cela qui amènera la conversion du monde. C'est pas les efforts de nos évangélisations qui convertiront le monde. Le monde, il va au-devant de la ruine, au-devant du jugement, il ira de mal en pis. Ce n'est pas l'évangélisation qui va convertir et changer le monde. Nous devons faire l'évangélisation, mais sans nous illusionner sur le succès que nous pouvons avoir, nous arrachons des âmes à la carrière du monde, mais nous ne changeons pas le monde. Jusqu'au bout, il y aura le mélange de l'ivraie et du bon grain. Mais quand le Seigneur viendra, alors, évidemment, ceux qui auront eu la connaissance de la vérité et qui auront résisté, seront jugés. Mais ceux qui n'ont pas eu la possibilité de connaître la vérité, l'entendront et se tourneront vers le Seigneur. Et c'est là que nous voyons la conversion aussi des Juifs. Après la grande tribulation par laquelle ils devront passer, mais nous pensons que les croyants de l'Église seront enlevés avant cette grande tribulation. C'est pour ça qu'il est dit que nous attendons la bienheureuse espérance. Nous sommes sauvés, nous nous sommes détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de quoi? De la colère à venir. Nous ne sommes pas destinés à la colère, nous attendons la délivrance. Nous attendons des cieux Jésus comme sauveur. Et il est bien dit dans Philippiens 3:20 qu'il va transformer le corps de notre humiliation en un corps semblable au sien. C'est ça notre espérance. Puis ça, ça peut se faire quand? Tout de suite. Ça peut se faire d'un instant à l'autre. Parce qu'un jour, Jésus est né. Hein? C'était dit depuis bien longtemps. Et qui savait, qui attendait cela. Voilà, ça se produit. Et un jour, le Seigneur sera venu pour enlever les siens. Alors, il y aura une disparition de tous ceux qui auront cru sur la terre. Ça donnera des emplois, hélas, à ceux qui restent. Tous les comptes en banque, de ceux qui restent, parce qu'ils ne vont pas emporter leur coffre, on va pas emporter notre argent là-haut. Alors, faisons le valoir pendant que l'on peut. Pour le Seigneur, tout cela nous est enseigné par la grâce. Et vous voyez, méditez ça, il s'est donné lui-même. Voilà, dans le passé, quand il est venu, il s'est donné lui-même. Afin, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est donné? Afin de nous racheter. Est-ce que vous êtes racheté? Et il vous a racheté au prix de sa vie. Il a donné sa vie. Voilà le prix qui a été payé. Ce n'est pas de l'argent et de l'or qui vous sauve. Hein. C'est sa vie. Alors vous pensez bien que vous avez du prix pour Dieu. Vous ne pouvez pas perdre ce salut. Puisqu'il vous a racheté, vous appartenez à qui? Vous ne vous appartenez plus, vous appartenez à celui qui vous a racheté. Et il ne vous a pas racheté.